Vous écoutez France Culture.
Bonjour et bienvenue à tous dans Science Publique. Nous retrouvons l'émission mensuelle de Science Publique réalisée en partenariat avec le magazine Science et Vie. Comme toujours, vos réflexions et commentaires sont vivement attendus sur le site de Science Publique au sujet de notre débat d'aujourd'hui. Les plantes possèdent-elles une véritable intelligence ? La question paraît saugrenue. Il y a quelques années, elle ne se serait certainement pas posée. Pourtant, le magazine Science et Vie, notre partenaire donc pour cette émission, titre son dossier de ce mois de mars « L'intelligence des plantes enfin révélée ». On pense d'abord à une formulation légèrement exagérée. Et puis au fil des pages et des exemples d'observations et d'expériences, le doute s'installe. En effet, les plantes sont bien dotées de multiples facultés que l'on pensait réservées au monde animal. Certains de leurs sens, comme l'odorat, sont même nettement supérieurs aux nôtres. Surtout, elles peuvent communiquer entre elles, reconnaître leurs congénères, nourrir leur progéniture, garder des événements en mémoire. Elles élaborent aussi des stratégies pour combattre leurs agresseurs. Et elles s'entraident. Toutes ces caractéristiques sont décrites dans un langage anthropocentrique, sans doute un peu abusif parfois. Il n'empêche qu'elles posent clairement la question, les plantes sont-elles, finalement, dotées d'une forme de ce que nous appelons l'intelligence ? Certes, le terme est aujourd'hui largement galvaudé, ce qui n'arrange pas les choses. De nombreux objets, puces électroniques, capteurs, téléphones, ordinateurs ou robots sont déclarés intelligents abusivement. Mais les plantes ? Qui dit intelligence sous-entend cerveau ? Où se trouve-t-il dans un arbre, une fleur, une tomate ? Certains chercheurs pensent que tout se passe à l'extrémité des racines. De fait, leurs ramifications infinies ne sont pas sans ressembler à la structure des neurones et des synapses. De là à parler d'un cerveau qui serait donc enfoui sous terre et piloterait l'ensemble des fonctions de la plante pour prendre des décisions et engranger des connaissances, il y a un pas. Quelles sont ces découvertes réalisées au cours des 30 dernières années et qui conduisent aujourd'hui à nous poser la question de l'intelligence des plantes ? La complexité du règne végétal est-elle vraiment comparable à celle du règne animal ? Doit-on ainsi parler d'éthologie des plantes, de communication végétale, voire de neurobiologie végétale ? Pour répondre à ces questions passionnantes, nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui dans Science Publique, dans cette émission donc réalisée en partenariat avec le magazine Science et Vie, Olivier Baudot, philosophe, doctorant à l'IPS... L'IHPST, l'Institut d'Histoire et de Philosophie des Sciences et des Techniques. Et donc il est doctorant en philosophie de la biologie. Il nous expliquera de quoi il s'agit. Francis Allais est botaniste, spécialisé dans les plantes tropicales et auteur de nombreux ouvrages, dont le fameux « Éloge de la plante pour une nouvelle biologie » paru au Seuil en 2004. Bruno Moulia est directeur de recherche INRA dans l'unité mixte physique et physiologie intégrative de l'arbre à Clermont-Ferrand. Et nous sommes également avec Hervé Poirier, rédacteur en chef de Science et Vie. Je vous rappelle que vous pouvez bien entendu nous communiquer vos commentaires, vos réflexions et vos témoignages sur le site de Science Publique sur franceculture.fr. Hervé Poirier, bonjour.
Bonjour.
Alors, il est toujours délicat d'utiliser le mot « intelligence » en dehors du règne animal, voire de l'homme lui-même. Et vous avez pris le risque, dans ce dossier de Science et Vie du mois de mars, de l'utiliser pour les plantes, et même sans guillemets. Alors, qu'est-ce qui vous a décidé à donner ce qualificatif du règne animal à un sujet comme le règne végétal, réputé, inanimé ?
L'avantage ou l'inconvénient du mot « intelligence », c'est qu'il a plein de façons d'être défini. Alors ça peut être la capacité à répondre à un QI, sur laquelle, sans trop s'avancer, les arbres seront nuls. Par contre, ça peut être aussi regarder le comportement, c'est-à-dire regarder pas du tout regarder comment ça se fonctionne à l'intérieur, mais comment ils réagissent. Est-ce qu'ils sont capables de s'adapter à des réponses différentes ? Est-ce qu'ils sont capables de réagir ? Est-ce qu'ils sont capables de communiquer ? Est-ce qu'ils sont capables... Donc cette approche qui est une approche comportementaliste, c'est celle qui, depuis 10 ans, nous a étonnés par le nombre, l'ampleur, la diversité des comportements qui ont été mesurés, cette fois-ci de façon très objective, par des mesures de composés volatiles, des réactions génétiques savamment mesurées. Donc il y a une façon d'objectiver le comportement des plantes depuis 10 ans qui révèle, à la surprise le plus souvent de ceux-mêmes qui font l'expérience, qui n'y croient à peine quand ils y font, souvent ils sont eux-mêmes surpris par la force des résultats, qui révèlent des comportements tout à fait inattendus, tout à fait sophistiqués, qui, s'ils étaient l'œuvre d'un ver de terre ou d'un animal, on dirait, ah ben, c'est quand même un comportement qui est digne d'une certaine intelligence. Donc le mot intelligence, on l'a mis sans guillemets parce qu'on considère que le mot est suffisamment plastique pour décrire tous les objets vivants ou non vivants qui sont capables de répondre à un environnement qui les stimule, d'adapter leurs réponses et pour optimiser leur survie. Donc il y a une vision darwinienne dans cette notion d'intelligence, mais quand on utilise le mot intelligence de l'ordinateur, les premières années, c'était avec des guillemets, depuis, on les a ôtés. Les ordinateurs peuvent être intelligents à leur manière. Les animaux étaient des automates il y a plusieurs siècles. Aujourd'hui, on accepte qu'ils soient une forme d'intelligence. Chacun de ces objets a sa propre intelligence. Il n'y a pas une seule intelligence. Mais il nous semblait que les découvertes récentes, qui pour moi sont stupéfiantes, je pense qu'il y a 10 ans, ce serait été de la science-fiction, ce dossier. Donc toutes les découvertes depuis 10 ans nous ont poussé à ôter les guillemets et je pense à ouvrir le débat sur qu'est-ce que c'est que cette nouvelle forme d'intelligence qui ne ressemble à rien de connu jusqu'ici.
Eh bien, c'est justement le sujet de notre émission, donc on va pouvoir en débattre. Bruno Moulia, bonjour.
Bonjour.
Alors, pour peut-être un premier exemple, parce que là, on a évoqué beaucoup de choses de possibles et merveilleuses. Alors, peut-être déjà nous donner un aperçu de votre travail sur le comportement des plantes, en particulier, oui. Si j'ai bien compris, de leur équilibre.
Alors voilà, nous, au laboratoire, on travaille à la fois sur le sens de l'équilibre des plantes, et c'est vrai qu'en général, et sur leur sens du toucher. Et c'est vrai qu'en général, on ne se pose pas tellement le problème de l'équilibre des plantes. C'est-à-dire on a un arbre, on voit ça comme un poteau. On peut faire un poteau à partir d'un arbre. Donc on se dit, ben finalement, il suffit qu'il soit bien planté, et puis s'il n'y a pas trop de vent, ça ira. Et pendant longtemps, c'était l'image qui prévaut, sûrement aussi beaucoup pour la plupart des gens. Et puis nous, on a commencé à étudier ce problème. Il faut imaginer que l'arbre, il pousse tout le temps. Et donc, en fait, il rajoute toujours des masses à un endroit. Imaginez-vous que vous êtes debout avec vos bras écartés et qu'on vous rajoute sans arrêt des masses d'un côté et de l'autre, mais il va falloir commencer à rectifier votre posture. Et donc, on a commencé à travailler là-dessus. On s'est aperçu, on connaissait depuis longtemps le fait que les arbres perçoivent en fait l'orientation par rapport à la gravité, comme nous, on le fait avec notre oreille interne. Et on sait aussi qu'ils ont des muscles, enfin des moteurs plus exactement, qui ont une fonction de muscle. Ce ne sont pas des muscles, mais ce sont des moteurs, c'est-à-dire quelque chose qui leur permet de faire des déplacements. Donc là, on s'aperçoit déjà qu'ils bougent et qu'ils bougent sans arrêt.
Et donc ils pilotent leur croissance, par exemple, pour...
Voilà, c'est-à-dire que leur mouvement est de croissance, c'est là qu'ils diffèrent fondamentalement de nous. Nous, on a une croissance pendant un petit moment, et puis après, ça s'arrête et c'est fini, vous savez. Et
bien là, oui, j'ai remarqué.
Voilà. Et donc, les arbres, eux, par contre, ils vont pousser toute leur vie, les plantes en général. Hein. Et donc, du coup... pendant cette croissance, ils peuvent en fait réorienter leur mouvement. Et donc, ils peuvent se courber vers un endroit, vers la lumière, tout le monde l'a vu dans son appartement. Mais aussi, ils font attention à la gravité. Alors, pendant un moment, on a pensé que c'était suffisant. Donc, c'est déjà beaucoup de mouvements, hein, vous voyez, un comportement moteur qu'on n'attend pas. Et on s'est rendu compte récemment qu'il fallait aussi qu'elles aient un sens de leur forme propre. Ce qu'on appelle, dans le vocabulaire de la physiologie animale, la proprioception, le sens de soi-même. Et donc ça, on ne s'attendait pas du tout à cette capacité-là. Et donc, nous-mêmes, on était surpris. On a commencé par refaire plusieurs fois nos modèles, vérifier nos expériences, etc. Et finalement, il a bien fallu conclure qu'il y avait bien un sens de la forme propre de la plante qu'elle a tout le temps et qui lui permet de se rectifier, en fait.
Et qui se traduit comment ? Enfin, comment ça fonctionne, ce sens ?
Alors, si moi, je vous dis, par exemple, qu'il faut se tenir droit, vous allez, en fait, utiliser, vous, des capteurs de déformation qui sont dans vos muscles et qui vous permettent de savoir si vous êtes déformé un peu dans un sens ou dans l'autre. Et les plantes ont des capteurs aussi de déformation qui leur permettent de connaître leur courbure. Et donc, elles perçoivent leur courbure à tout endroit. Voilà. Et donc, si, pour rectifier, eh bien, elles vont envoyer un signal qui va déclencher un mouvement de décourbure. Elles vont se remettre droite. Voilà. Et en même temps, elles vont sentir aussi l'orientation de la gravité. Et c'est la combinaison de ces deux sens qui leur permet de faire de très beaux mouvements. Hein. Quand on regarde en accéléré, c'est vraiment une sorte de danse. Hein. Il faut voir ça.
Oui, ça, on y reviendra parce qu'effectivement, il y a tout un problème de vitesse. On n'est pas du tout sur les mêmes cadences entre l'homme, l'animal et la plante. Et c'est peut-être aussi ça qui masque une partie de son activité.
Absolument, absolument, oui.
On va y revenir. Francis Allais, bonjour. Vous êtes avec nous depuis Montpellier. Bonjour. Est-ce que vous nous entendez ?
Oui, très bien.
Très bien. Ben écoutez, première question, vous avez participé à ce dossier sur justement le débat autour de l'intelligence. Mais avant d'en arriver peut-être là, quel est votre sentiment sur ce que disait Hervé Poirier à l'instant, c'est-à-dire cette explosion des découvertes au cours des 10 dernières années concernant les mécanismes à l'œuvre ?
Admirable, en effet. D'ailleurs, ces exemples sont un peu courts. Moi, j'aurais pu lui en donner des quantités d'autres. Mais ça ne m'empêche pas d'être fondamentalement en désaccord avec lui.
Vous avez le moyen de rattraper certaines choses pendant cette émission.
Oui, je trouve que ce monsieur aurait dû au minimum garder les guillemets autour du mot intelligence, parce que ce n'est pas de l'intelligence. Est-ce que vous souhaitez que j'explique maintenant mon point de vue ?
Non, mais on va y revenir, ça va être l'essentiel de l'émission. Je voudrais que vous nous parliez justement de ces 10 ans d'explosion et de ce qui vous a frappé le plus dans cette période.
Alors ça, c'est vrai que nous avons appris des quantités de choses incroyables et tout à fait imprévisibles. La communication entre les plantes, moi j'en ai entendu parler en 90. Et à l'époque, c'était extrêmement audacieux. Et maintenant, je vois qu'il y a beaucoup de labos qui travaillent là-dessus. Non, on a fait énormément de progrès.
Voilà. C'est la communication qui vous paraît l'un des éléments les plus frappants dans ce domaine, en termes de découverte ?
Il me semble que oui. Oui. La communication, mais ce n'est pas des communications simples, c'est des communications très élaborées qui visent à prémunir la plante contre des attaques de pathogènes ou de parasites ou de prédateurs. Donc c'est quelque chose qui est finalisé, on comprend à quoi ça sert.
Et donc c'est essentiellement chimique ou est-ce qu'il y a d'autres voies de communication ?
Ah oui, il y a beaucoup de voies de communication. Finalement, ça sera chimique tout à fait en dernier ressort, mais il y a des communications par exemple souterraines par le biais des champignons symbiotes. C'est pas directement de la chimie, il y a un organisme qui fait l'intermédiaire entre les deux partenaires.
Très bien, on va y revenir. J'achève le tour de table de nos invités aujourd'hui. Olivier Baudot, bonjour.
Bonjour.
Donc vous êtes philosophe et c'est là aussi une découverte en soi qu'un philosophe s'intéresse à ce domaine. Qu'est-ce qui vous y a conduit ?
Ce qui m'a conduit, en fait, c'est la découverte de l'ouvrage de Francis Allais, L'Âge de la plante, il y a plus d'une dizaine d'années, et qui m'a fasciné en effet parce que ces plantes sont capables de plein de choses, et c'est vrai qu'on a tendance à les regarder sans vraiment prendre conscience que c'est des êtres vivants. Alors je voudrais revenir sur ce qu'on disait sur le débat autour de l'intelligence. Il me semble qu'en fait, pour qu'on reconnaisse un comportement comme intelligent, il faut déjà qu'on reconnaisse qu'il y a un comportement. Il me semble que la notion de comportement chez le végétal, en fait, elle fait pas vraiment consensus encore. Et ce qui me frappe, c'est que quand on lit des articles d'auteurs qui essayent de développer une vision un peu générale sur ce que c'est qu'un comportement végétal, qui essayent de le définir, ces auteurs souvent commencent par se justifier un petit peu de parler de comportement. Alors une explication, je pense, c'est évidemment qu'on associe le comportement au mouvement, parce que nous-mêmes déjà sommes des animaux, et on le vit de l'intérieur ce comportement, on le vit comme des mouvements moteurs. Et donc la première difficulté, c'est d'arriver à se mettre d'accord sur ce que veut dire comportement pour des êtres à vie fixée. Voilà. Il me semble qu'il n'y a pas consensus exactement sur ce sujet encore.
Et on entend également, parce que là, les termes, il y a une confusion qui grandit dans les termes, on entend parler d'éthologie quasiment végétale, c'est-à-dire l'éthologie étant l'étude du comportement des animaux transposée au végétal. Bruno Moulien.
Oui, alors. Je pense que si on se rappelle un peu ce qui s'est passé, par exemple, ce qu'on appelait le behaviorisme, les études qui sont faites sur l'animal et l'homme, c'était beaucoup de stimulus-réponse. Alors, ça a été très critiqué ensuite par les gens qui faisaient de la psychologie plus élaborée, on va dire, et aussi dans les sciences cognitives. Donc, ce qui s'est passé en végétal, c'est que les gens ont étudié, comme vous le disiez très bien, des stimulus-réponse. Ils ont essayé de voir qu'est-ce qui se passait. Alors déjà, ils se sont aperçus, et c'est la surprise de un peu tout le monde, comme ce que disait Francis tout à l'heure, c'est que finalement les plantes sont sensibles à énormément de choses. Il y a au moins, vous disiez 15, je crois, peut-être plus de signaux différents qui sont connus comme étant perçus. Bon, et on va en découvrir d'autres, dès qu'on rentre dans la chimie, on va en trouver plein. Et donc on s'aperçoit qu'elles prennent beaucoup d'informations dans leur milieu, qu'elles ont, par exemple, aussi vous demandez des exemples, un sens de la perception de leurs voisines, c'est-à-dire elles sont capables de discerner par la réflexion de la lumière sur la voisine, elles sont capables de discerner une plante voisine d'une non-plante, c'est-à-dire un animal ou un rocher, par exemple. Vous voyez, donc, on s'est aperçu que tous ces signaux, elles étaient capables de les combiner pour répondre. C'est-à-dire que ce n'était pas simplement un signal, une réponse. Et donc, c'est là qu'est rentré le questionnement sur la complexité qu'il fallait donner à l'agencement de ces réponses. Voilà.
Francis Allais, vous adhérez à ce terme de comportement végétal
et, Non.
Non. C'est-à-dire
Non, je crois que c'est prématuré.
Et pour quelle raison, de votre point de vue?
Mais parce que nous n'en savons pas assez, tout simplement. Pour l'instant, comportement, pour moi, c'est un terme qui vient d'un langage adapté à l'être humain et aux animaux. Ça, c'est vrai, ça marche dans ce cas-là. Alors, n'appliquons pas prématurément ce genre de terme à des plantes.
Qu'est-ce qui manque?
C'est comme le terme d'intelligence, ça marche pas.
Qu'est-ce qui manque aux plantes pour qu'on puisse parler de leur comportement?
Oh, très sincèrement, mais c'est subjectif, je ne pense pas qu'on arrivera jamais à justifier l'utilisation du mot comportement chez des plantes.
Une réaction peut-être. Hervé Poirier.
Non, mais là on est sur un débat des mots en fait. C'est sûr que les mots ont été définis dans des domaines et vouloir y voir des parallèles, des métaphores dans d'autres domaines en se disant ils sont plus éclairants que confusants ou ils sont plus confusants que éclairants de les réutiliser, c'est un débat incroyable. Je prends un exemple. Il y a une expérience qui, moi, m'a absolument fasciné d'une Canadienne, Suzanne Simard, qui a mis des petits sacs plastiques autour de feuilles, en haut des arbres des grands pins. Et elle a mis du CO2 radioactif dedans. Le lendemain, elle est revenue avec son compteur Gégère, elle et ses étudiantes, et elle a constaté, oh surprise, que le compteur Gégère indiquait le sens des racines des vieux arbres qui se dirigeaient vers les petits arbres, Au bout de quelques jours, on voyait le CO2 radioactif dans les petits arbres. Ça voulait dire que les vieux arbres nourrissent les petits. Alors, nous avons titré « Les vieux pins font preuve de solidarité ». On aurait pu mettre « vieux » entre guillemets, « solidarité » entre guillemets. On aurait pu mettre « preuve » entre guillemets. Enfin, les guillemets sont... Chaque mot est une extrapolation. Nous pensons que c'est plus éclairant de dire « c'est une forme de solidarité qui n'a rien à voir avec les autres solidarités que l'on peut comprendre, que l'on peut voir dans les sociétés humaines, dans les sociétés animales ou ailleurs. » Il y a quand même des comportements, disons entre guillemets, des comportements qui nous poussent en tout cas à transformer totalement le regard que l'on portait sur les forêts quand nous nous promenons dedans jusqu'ici.
Francis Allais, est-ce que ce n'est pas un problème d'invention d'un nouveau vocabulaire pour désigner ces découvertes plutôt qu'autre chose?
Ça fait très longtemps que je me suis rendu compte de ça. Nous avons un langage qui est adapté à l'être humain et aux animaux, c'est bien normal. Et nous n'avons que ce langage-là. Mais il nous faudrait en fait un langage propre aux plantes et capable de les décrire de façon objective. Ça, nous ne l'avons pas. Alors, ce n'est pas une raison pour utiliser au sujet des plantes des termes qui viennent de l'animal ou de l'homme.
Il y a un vide quand même, un manque apparemment.
Oui,
et
vrai,
en général, la nature en a horreur. Donc, en réalité, elle se comble, les manques se comblent naturellement. Peut-être Olivier Baudot.
Oui, je me demande... En fait... Je me rappelle d'un livre de Piaget qui s'appelait Le comportement moteur de l'évolution, où il définissait le comportement comme en fait l'action de modifier sa relation avec l'environnement. Il consacrait un petit chapitre aux plantes où il expliquait que la définition convenait très bien avec les plantes, à condition de dire que leur action s'exerçait sur elles-mêmes en fait, pour dire que la croissance de la plante, qui continue tout au long de la vie, se module différemment en fonction des signaux qu'elle reçoit. Alors, est-ce que dans ce cas-là, on ne peut pas parler de comportement végétal? Et sinon, je me demandais ce que Francis Allais penserait de la notion de sensorimotricité végétale. C'est-à-dire à partir du moment où la plante perçoit des signaux, où il y a un traitement d'information, alors de quelle nature, ça évidemment, c'est toute la question, et où elle réagit ensuite à ça par des réponses, aux réponses les plus adaptées, est-ce qu'on ne peut pas parler d'entrée sensorielle et de réaction motrice? Est-ce que c'est complètement inutile d'employer cette expression?
Je vous rappelle que vous écoutez Science Publique sur France Culture en direct depuis le studio 1061 de la Maison de la Radio et que nous débattons aujourd'hui autour de la question « Les plantes possèdent-elles une véritable intelligence ?» avec nos invités Olivier Baudot, philosophe, Francis Allais, botaniste, Bruno Moulia, chercheur de, directeur de recherche pardon, à l'INRA, et nous sommes également avec Hervé Poirier, rédacteur en chef de Science et Vie. Alors, Olivier Baudot vient de poser directement une question à Francis Allais sur la sensorimotricité. Est-ce que ce terme-là, Francis Allais, vous l'acceptez mieux que celui de comportement, peut-être ?
Et je trouve que le terme n'est pas très beau, sensorimotricité. Je ne suis pas prêt de dire ça à mes étudiants. Mais par contre, sur le fond, je suis d'accord. La sensibilité des plantes, c'est quelque chose d'incroyable. Nous avons appris tout récemment qu'elles sont sensibles aux ondes sismiques. Et il est possible que dans quelques temps, quand ça sera au point, on pourra utiliser les arbres pour déterminer l'arrivée des séismes. Donc la sensibilité, elle est énorme. Vous savez, quand vous êtes fixe, immobile, vous êtes obligé de développer une énorme sensibilité. Alors, répondant à cette sensibilité... à la sensibilité par des mouvements. Alors là, bien entendu, les plantes le font. Sensorimotricité, à part que ce n'est pas très joli comme mot, je suis d'accord avec le fond.
Alors, dans les exemples que cite Science et Vie de ce mois-ci, on découvre des choses qui ne sont pas forcément triviales, comme l'ouïe du maïs, par exemple, Hervé Poirier, qui est quand même quelque chose de tout à fait étonnant, la sensibilité à des ondes sonores d'un végétal. Oui.
Ça pose beaucoup plus de questions que de réponses, mais les faits sont là. Chacune des expériences, et nos débats sur les mots viennent de toute façon de la violence des faits expérimentaux qui sont mesurés. Donc nous sommes d'abord, nous, émerveillés par la violence de ces faits qui viennent à l'assaut de regards que l'on avait sur le monde végétal qui sont de plus en plus désuets. Donc on n'a plus de mots, et nous, à Science et Vie, on s'en réjouit quelque part. Mais pour répondre à votre question sur le sens du maïs, c'est juste une expérience d'une Italienne qui a mis différentes fréquences de sons envoyés vers un maïs, et à certaines fréquences, autour de 200 Hertz, pardon, eh bien les racines se dirigent vers la source du bruit. Pourquoi ? Pour faire quoi ? Quelle est la raison ? La biologiste italienne a une explication qui, alors elle fait très très polémique, elle dit c'est parce que c'est la communication. Elles écoutent parce qu'elles se parlent, et les arbres parlent aussi. La plupart de ses collègues trouvent que son hypothèse est trop hardie, mais par contre, il y a de plus en plus de travaux qui sont développés depuis ces travaux pionniers sur l'audition végétale. Donc la parole végétale, enfin le langage des arbres, le langage vocal des arbres reste un sujet sur lequel nous n'avons pas trouvé de travaux, disons, qui objectivaient ça. Par contre, l'audition, ce fait-là, reproductible, hein, semble, il y a une sensibilité à certaines fréquences.
Audition, on est encore là dans l'anthropocentrisme, ouais. C'est plutôt une perception des vibrations sonores, qui n'est pas tout à fait peut-être la même chose, mais
perception
là encore
sonore,
un problème de mots. Oui,
encore un problème de mots, tout à fait.
Bruno Moulia.
Oui, alors les plantes sont sensibles effectivement à beaucoup de stimuli mécaniques. Elles perçoivent les déformations, elles perçoivent leurs propres mouvements et leurs propres déformations. Elles perçoivent effectivement, il y a eu beaucoup d'expériences, enfin il y a quelques expériences autres que celles-là aussi qui ont montré effectivement qu'elles percevaient les vibrations sonores. Après, le problème de l'audition, c'est effectivement qu'est-ce qu'on reconstruit à partir de ça. Ouais. Donc on rentrera peut-être dans ce débat, mais ce que je voulais pointer d'abord, c'était que, et je trouve qu'on le sent bien autour de la table quand on intervient, c'est qu'on se trouve à un moment où on se trouve un peu démuni en fait. C'est-à-dire tout d'un coup, on se trouve devant une collection de faits avérés, établis, qui remettent en cause, disons, la manière dont la plupart des gens, nos concitoyens, vont percevoir les plantes, et même les scientifiques. Et donc, à ce moment-là, on se retrouve d'abord devant un vide. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on va dire là-dessus ? Alors, chacun cherche ses mots, on fait un peu des métaphores, voilà. Mais ensuite, il faut chercher à combler ce vide, comme vous le pointiez très bien. Alors maintenant, il y a plusieurs positions. Alors, la position de Francis Allais, par exemple, est intéressante, parce que lui, c'est quelqu'un qui, enfin, je ne sais pas si tu seras d'accord, Francis, que je salue en même temps, c'est quelqu'un qui fait attention à établir un langage. Les botanistes ont fait beaucoup d'efforts pour avoir des langages spécifiques. Il y a un énorme effort. Moi, je viens plutôt d'une formation physicienne, donc moi, mon souci, c'est plutôt chercher des choses universelles. C'est-à-dire, je vais chercher si on peut, éventuellement, au prix probablement d'un décentrement par rapport à la vision anthropocentrée, définir quelque chose de relativement universel. Peut-être qu'on va changer, du coup, le contenu, hein. Mais je suis plus ouvert de ce point de vue-là, je pense, par formation, en fait. Hein. C'est un point de vue.
Francis Allais, vous êtes d'accord ?
Je ne suis pas d'accord avec cette histoire d'audition.
Ah,
parce que les plantes soient sensibles aux ondes sonores, nous le savons très bien. D'ailleurs, il manque un superbe exemple. C'est la plante qui danse, la plante du Yunnan chinois. Si vous faites du bruit de vent assez fort, elle se met à bouger. Bon, ça, c'est le meilleur exemple que je connaisse. Mais j'espère qu'on ne va pas confondre l'audition, entre guillemets, avec l'intelligence. Ça n'aurait vraiment rien à voir.
On a déjà un peu minoré le terme audition en disant que c'était plutôt une perception sonore, ce qui n'est pas la même chose.
Oui, une perception, c'est ça. D'ailleurs, toutes ces sensibilités des plantes, elles sont admirables. Et je crois, en effet, que la liste va s'allonger de ces sensibilités. Mais ce n'est pas de l'intelligence, ça.
Alors, comment vous le définiriez ? Entrons dans le débat de fond. Comment, si ça n'est pas de l'intelligence, pourriez-vous utiliser à la place ?
Excusez-moi, je vais commencer par regarder ce qu'est l'intelligence, parce que là, ça a une définition, ce terme. Capacité de comprendre, capacité de saisir par la pensée, être capable de réflexion, capacité de donner un sens à ce qui nous entoure. Attendez, le plus intéressant, je crois, c'est l'étymologie. Intelligere en latin, ça veut dire choisir entre par l'esprit. Vous voyez tout de suite que ça n'a rien à voir avec ce qu'on observe chez les plantes.
Alors oui, évidemment, il y a le doute élevé, mais le problème reste entier. Olivier Baudot, quelle solution ? Comment qualifier cet ensemble de caractéristiques, de capacités des plantes ?
Non, j'ai absolument aucune solution pour aucun terme adéquat et j'en ai pas les compétences. Mais par contre, je voudrais dire que souvent, quand les scientifiques parlent d'intelligence végétale, ils veulent entendre, je pense, cognition, c'est-à-dire une capacité à traiter de l'information, à faire des choix entre les différentes manières de répondre à une situation. Donc, en ce sens-là, il n'y a pas l'idée de mettre du sens dans les choses. Et je pense qu'il faut se méfier à ne pas confondre entre cognition et conscience. Les auteurs qui parlent d'intelligence végétale ne parlent pas de conscience végétale au sens d'un vécu, d'une intériorité, d'une subjectivité, d'une capacité à souffrir, à désir, à craindre et ce genre de choses. Ils parlent vraiment d'une intelligence opérationnelle d'une certaine manière. Et là, la notion de cognition, alors elle vient des origines de l'informatique et c'est une notion qui s'applique aussi à des machines, enfin qui sort du cadre du vivant. Et finalement, peut-être que ça ne dit pas grand-chose cette notion, mais en tout cas, c'est pas aussi polysémique que la notion d'intelligence.
En même temps, dans cognition, il y a souvent associé la notion d'apprentissage. Et je ne suis pas certain que ce soit le cas des plantes. Alors, quelle est la vie autour de la table ?
Si, ça existe, l'apprentissage.
Francis, allez.
Oui, excusez-moi, mais je reviens à la plante qui danse, une plante qui m'est très chère. Si vous ne la faites jamais danser, eh bien, le jour où vous essayerez, elle va danser très très mal. Par contre, si depuis sa germination, vous la faites danser régulièrement, elle danse beaucoup mieux. Donc il y a un entraînement.
On peut la dresser d'une certaine façon.
On peut la dresser, oui. Enfin, ce n'est pas de l'intelligence à nouveau.
Bruno Moulin.
Oui, je pense que c'est... l'exemple de Desmodium gyrans, c'est effectivement frappant parce qu'on a cette capacité de modification du comportement individuel. Alors, je prends le comportement au sens où on l'a entendu assez large pour l'instant, en fonction de l'histoire de cet individu-là. Voilà. Donc c'est vrai que cette partie-là est troublante. À présent, moi j'ai l'impression que, comme le disait Olivier, le contexte dans lequel ça se place est plutôt celui de la cognition. Alors c'est vrai que c'est un mot qui parle moins, qui est un peu technique. Donc j'ai l'impression qu'à ce moment-là, on peut définir des choses en évitant un peu l'écueil et la bataille un peu stérile, en fait, de l'histoire de l'anthropomorphisme ou pas. Parce que comme le disait bien Francis, on est quand même bien obligé de penser un peu au départ avec nos propres représentations. On est tous des animaux et des humains. Voilà, il y a peu d'autres espèces qui étudient les sciences. Et donc, à un moment donné, ça peut être fertile d'essayer de se mettre à la place de se mettre à la place de la plante. Dans un deuxième temps, par contre, il faut se déprendre. Et donc, moi qui suis plutôt donc, de formation physicienne au départ, je pense que c'est ce qu'on appelle un modèle. Donc si on regarde par exemple l'exemple que je vous donnais tout à l'heure sur comment les plantes se redressent et font leur contrôle, leur posture, moi, personnellement, quand j'ai travaillé là-dessus, effectivement, je suis parti d'une intuition à moi, personnelle. D'ailleurs, il y a un artiste qui demande aux gens de se mettre à côté d'un arbre et d'imaginer qu'ils prennent, enfin, leur demande de prendre la même posture que l'arbre, il prend en photo, il leur demande ce qu'il a ressenti. Alors, ça m'avait amusé. Donc, ça a excité ma curiosité, si vous voulez, on peut dire ça comme ça. Bon, ensuite, quand on a étudié le phénomène que je vous expliquais tout à l'heure avec la perception propre de la courbure, on est arrivé à faire un modèle. Donc, c'est-à-dire qu'on a formalisé nos hypothèses et là, on sort vraiment de la représentation humaine, si vous voulez. Et ce qui nous a d'ailleurs amené finalement dans ce cas précis, qui va être un peu décevant par rapport à la thématique de l'intelligence, a montré que les plantes pouvaient arriver à faire tout ce contrôle de mouvement très fin grâce en fait à une combinaison de perceptions locales. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de centralisation particulière de traitement de l'information. Et c'était dans un sens le fait que les plantes s'y prennent autrement que nous, une surprise aussi, parce qu'on ne pensait pas que c'était possible de faire un mouvement si compliqué finalement avec si peu d'informations. Il y a une sorte d'élégance dans la solution retrouvée, d'un point de vue mathématique, vous voulez, un peu d'élégance mathématique, qui des fois surprend. Donc vous voyez, il y a une dialectique enfin, entre le fait d'avoir des intuitions et de pouvoir aussi communiquer avec les gens en utilisant des mots que les gens comprennent, même des fois pas totalement définis, et ensuite formaliser mieux les hypothèses qu'on veut tester.
Francis Allais, est-ce que ça ne révèle pas que finalement les mécanismes à l'œuvre dans les plantes sont si différents des nôtres qu'on a déjà beaucoup de mal à les comprendre, on peut les constater mais pas forcément toujours les comprendre, et encore plus de mal à les décrire avec notre vocabulaire?
Oui, personnellement, ce qui m'intéresse le plus dans les plantes, c'est leur altérité. L'altérité par rapport à l'être humain et à l'animal. C'est ça qui me paraît que ces plantes ont d'irremplaçable. Alors, c'est pour ça que ça m'ennuie qu'on utilise des mots venant de l'être humain, parce que ça perd de l'altérité. Enfin, j'ai beaucoup de raisons d'être tout à fait en désaccord avec ces termes-là.
Alors, par exemple, quand vous parlez d'altérité, comment vous la définiriez, puisque pour mieux la comprendre, c'est-à-dire, quelles sont les différences entre ces différents mondes?
C'est totalement autre par rapport à nous. Attendez, comprenez bien qu'entre une plante et moi, il y a tout de même énormément de choses en commun. Nous sommes faits de cellules l'un et l'autre. La méiose, la mitose, la fécondation, l'embryologie, etc. Tout ça, c'est commun.
La génétique.
Donc, nous sommes assez proches, finalement. Mais ce qui m'intéresse, moi, c'est l'altérité, c'est-à-dire ce qui nous sépare.
Et par exemple?
Eh bien, par exemple, l'extraordinaire sensibilité aux marées, aux attractions des astres, sensibilité aux ondes sismiques, comme je le disais tout à l'heure, ça, c'est des choses que nous ne savons pas faire. Attendez, je vais être un peu méchant.
Je crois qu'en
prêtant de l'intelligence aux plantes, c'est-à-dire en leur prêtant un caractère qui est le nôtre, nous les rabaissons.
Alors, Hervé Poirier.
Je crois qu'elles méritent mieux que ça.
Je suis très sensible je comprends tout à fait.
Comme les plantes, en fait.
Le discours de Francis Allais, et je suis très sensible à la volonté d'avoir une pensée spécifique sur le végétal. Alors, le mot intelligence, nous l'utilisions comme intelligence artificielle, qui on voit bien qu'un cerveau n'a rien à voir avec un animal ou un homme, et on n'est pas gêné par l'avoir. Mais sans rentrer dans ce débat sémantique, moi je suis très sensible à l'argument que je crois M. Francis Allais nous a indiqué. Un argument très simple, c'est la plante est fixe. Et la fixité est un redoutable défi. Le pouvoir bouger, c'est une merveilleuse ruse de la stupidité. Il y a un problème, je m'en vais. Ne pas pouvoir bouger, c'est devoir faire face. Et devoir faire face, c'est obligatoirement avoir en soi les ressorts pour toute une complexité de réponses, parce que je ne peux pas m'en aller. Ça peut expliquer une partie de la surprise de voir que le riz a beaucoup plus de gènes que l'homme, ce qui a été vécu comme une humiliation.
Une humiliation insupportable.
Insupportable. mais peut-être parce que le riz, lui, il ne peut pas fuir.
Bruno Moulia.
Oui, sur la question de bouger ou pas, il faut attirer bien l'attention à deux choses. C'est-à-dire que ce que ne font pas la plupart des plantes, du moins aller aux échelles de temps où on les regarde, nous, c'est faire de la locomotion, c'est-à-dire fuir d'un endroit à un autre. Mais par contre, elles passent leur temps à bouger, c'est-à-dire qu'elles passent leur temps à faire des mouvements.
Elles ne se déplacent pas, mais elles bougent.
Voilà, elles se déplacent pas, mais elles bougent. Et elles bougent activement. Voilà. Donc...
Olivier Baudeau.
Oui, je voudrais juste poser
une... Je continue à ne pas être d'accord.
Oui, je vous redonne la parole tout de suite, Olivier Baudeau.
Non, juste poser une question, c'est qu'en fait, je me demande si c'est possible de ne pas passer par des analogies avec l'animal, étant donné que notre connaissance, à nous, être humains, est une connaissance animale. Enfin, je veux dire, nous sommes des animaux. Après, est-ce que l'analogie, elle n'est pas toujours déjà là? Et est-ce que finalement, ce n'est pas une de notre tâche que de se l'apprivoiser, c'est-à-dire de la penser, cette analogie? Est-ce que l'analogie, elle ne peut pas mettre en évidence justement ce qu'il y a de plus différent chez la plante? Est-ce qu'elle peut pas être mise au service de l'altérité? Et c'est vrai à tous les niveaux d'analogie. Je veux dire que même en parlant d'intelligence, ça permet aussi de se rendre compte à quel point cette intelligence est différente. Pareil pour les comportements, pareil pour la sensorimotricité. Il me semble d'ailleurs que c'est un peu ce que faisait Francis Allais dans son Éloge de la plante, où finalement le livre entier était une sorte de vaste analogie qui finissait par mettre en évidence ce que les plantes avaient d'irréductible à nos catégories. Après, je pense que les auteurs qui parlent d'intelligence végétale sont conscients de ça. Souvent, ils se rétractent en disant « mais nous parlons que de métaphores, c'est uniquement une manière de parler ». Et je me demande s'il ne faudrait pas en fait, que tout le monde clarifie en fait, l'usage qu'on fait de la métaphore et de l'analogie.
Francis Allais.
Je suis tout à fait d'accord avec ce que vient de dire l'ami philosophe. Ça me convient tout à fait, ça. Je reviens, Bruno, sur ce que tu disais concernant la mobilité des plantes. Ça vaut le coup de fréquenter un peu les forêts équatoriales, parce qu'il y a là des plantes très mobiles, qui se déplacent de plusieurs mètres par an. Donc même la motricité, la mobilité, fait partie des attributs de la plante. Est-ce qu'il y a pas une... que c'est fréquent, oui. Mais ça existe.
Est-ce qu'il n'y a pas une difficulté dans tous ces phénomènes, comme je le disais tout à l'heure, d'échelle de temps? C'est-à-dire qu'on a aussi ce sentiment d'une forme d'immobilité, d'une forme d'absence de mouvement et d'absence aussi de réaction aux changements environnementaux, parce que nous ne fonctionnons pas à la même vitesse.
C'est pas ça, non, c'est pas ça du tout. Les plantes auxquelles je fais allusion, vous prenez une photo à l'instant T, vous prenez la même photo l'année d'après, eh bien, elle sera 5 ou 6 mètres plus loin.
Oui, non, j'ai bien compris, mais justement, c'est aussi parce qu'elle se déplace, dans ce cas-là, lentement.
Non, c'est un cas particulier, parce que si vous prenez un chêne, eh bien, l'année d'après, il sera au même endroit, votre chêne.
Non, j'ai bien compris. Mais je voulais dire que, de façon plus générale, en dehors de l'exemple que vous prenez, est-ce qu'il n'y a pas dans notre perception des plantes un problème lié justement à des vitesses de phénomènes très différentes?
Je crois que les animaux sont très doués pour dominer l'espace. On est très bon dans la mobilité, dans la gestion de l'espace. Et les plantes, elles, sont excellentes dans la gestion du temps. On ne gère pas la même chose, voilà.
Bruno Mollier.
Oui, c'est amusant d'entendre Francis dire ça, parce que je suis d'accord avec vous sur le fait que moi, je participe aussi à la discussion. Bon, volontairement, je prends une position un tout petit peu marquée de manière à ce qu'elle soit vivante, mais je suis d'accord avec vous sur beaucoup de mouvements, en fait. La plupart des mouvements, on ne les voit pas à l'œil nu. C'est-à-dire, vous baladez en forêt, vous promenez en forêt, vous n'allez pas être attentif aux mouvements qui sont autour de vous. Et c'est pour ça qu'on est saisi de surprise et un peu de malaise, en général, quand on regarde des plantes qui bougent vite. Voilà. Donc, par exemple, la dionée, vous savez, les plantes carnivores. Et donc là, on est un peu surpris. On a dit, ça, c'est comme c'est l'animal. Si on met les choses en accéléré, ce qu'on
voilà,
fait nous
avec... nouvelles technologies qui ont changé notre vision complètement.
Effectivement, le cinéma, en fait, hein, tout simplement, déjà. Et d'ailleurs, les tout premiers films de mouvement, je ne sais pas si vous connaissez les choses d'Étienne Marais, là, sur le déplacement. Il y a eu à la Cinémathèque toute une exposition là-dessus. Eh bien, en fait, les tout premières, c'était sur les plantes. C'était
avant
un botaniste qui s'appelait... avant le cheval. Il s'appelait Louis von Sachs, et Pfeffer, un deuxième aussi. Et c'est surtout Pfeffer, en fait, qui a fait des films qu'on a retravaillés, nous, d'ailleurs, dans notre article. On a réanalysé ces données-là. Et donc, en mouvement accéléré, en fait, on voit... sans arrêt des mouvements de tous les sens, c'est-à-dire les feuilles se ferment, se rouvrent, elles se réorientent, elles tournent, les tiges retournent, etc. Et c'est là qu'on s'aperçoit en fait que finalement toutes les plantes ont des mouvements actifs, donc qui nécessitent la consommation d'énergie, et elles ont aussi beaucoup de sensibilité.
Olivier Baudot.
Oui, non, je pense qu'en fait les plantes qui ont des mouvements mobiles visibles à l'œil nu, comme les dionées ou les sensitives, ont peut-être fait beaucoup de mal finalement pour prendre conscience que le mouvement est général dans le monde végétal. Parce que ça nous donnait l'impression justement qu'il pouvait y avoir des mouvements végétaux à même échelle que ceux des animaux. Et du coup, il y a eu beaucoup de spéculations sur ces rares exemples de réveils végétaux, je remplace l'expression de Bergson. C'est-à-dire que certaines plantes auraient tout d'un coup la faculté de retrouver des possibilités animales qui, dans le reste du monde végétal, ont disparu. Donc en fait, on s'est focalisé un petit peu sur ces mouvements très visibles, très rapides, qui permettaient de faire de l'anthropomorphisme et qui ressemblait beaucoup à ce qu'on voit chez les animaux. On a spéculé sur la question de savoir s'il y avait un système nerveux dans ces plantes-là. Et du coup, ça fait, je pense, du mal au nécessaire changement de regard qu'on doit avoir sur les plantes.
Vous écoutez Sciences Publiques sur France Culture. Nous débattons aujourd'hui autour de la question : les plantes possèdent-elles une véritable intelligence ?
avec nos invités, Olivier Baudot, philosophe, Francis Allais, botaniste, Bruno Moulia, directeur de recherche à l'INRA, et Hervé Poirier, rédacteur en chef de Science et Vie. Alors, ce que vient de dire Olivier Baudot nous amène très naturellement à une des questions qui est posée dans le dossier de Science et Vie et qui n'est pas la moindre des questions, qui est si on dit intelligence, alors on a vu à quel point on pouvait contester hein, évidemment cette notion, on dit également cerveau. Et certains chercheurs, Hervé Poirier, ont cherché le cerveau des plantes. Certains ont quelques hypothèses.
Alors, déjà, il est peut-être possible d'être intelligent sans cerveau. Les plantes ont plein de fonctions sans organes. Elles respirent sans poumons, elles détoxifient sans foie, elles digèrent sans intestin. Pourquoi pas avoir une intelligence sans cerveau ? Cependant, quand on cherche quel est l'organe intégrateur des informations, car il y a quand même un consensus qui se dégage sur le fait qu'il y a un traitement de l'information plus ou moins centralisé. Les travaux de M. Moulia montrent bien qu'il y a une nécessaire centralisation des données pour pouvoir avoir une réponse globale. Donc la question, où est-ce qu'elle se pose ? Ils sont plutôt en train de regarder sous la Terre avec les incroyables révélations sur le monde des racines, un monde de communication avec les mycorhizes et toutes les forêts deviennent une sorte de vaste communauté. Mais au niveau de la plante individuelle, un espace dans lequel les recherches se focalisent pour essayer d'y trouver des transferts d'informations qui n'ont pas encore été décelés, qui n'ont pas encore été prouvés. Mais c'est par là que les regards se focalisent. Ouais.
Francis Allais, sur la question du cerveau des plantes, quelle est votre position ?
Excusez-moi, ça me fait marrer.
Non, ils n'ont pas de cerveau.
Ça marche beaucoup mieux sans cerveau. Mais attendez, il faut arrêter. C'est pas parce que les animaux ont un cerveau qu'il faut en chercher un chez les plantes. Ça, c'est vraiment...
Non, mais ne serait-ce que pour écarter l'hypothèse, mais on peut s'interroger de toute façon, tout de même sur ce qui... Sur, effectivement, mal, cerveau dit, veut dire centralisation, veut dire prise de décision locale, ça veut dire plein de choses. Est-ce que la plante, elle, a inventé un modèle totalement différent, au fond ?
Laissez-moi prendre un peu de recul.
Je pense
que ce qui est très gênant, c'est que les primates appartenant à la lignée animale, ils sont intéressés que par ce qui concerne leur propre lignée phylogénétique. Ce qui nous passionne, c'est nous-mêmes. J'ai une grande expérience des jardins botaniques. Qu'est-ce qui intéresse les visiteurs ? Ils viennent voir les plantes carnivores et les plantes qui font du bruit. C'est-à-dire que ce qui les intéresse, c'est des plantes qui ont des caractères visiblement animaux. Dans le fond, se regarder le nombril, c'est un peu ce qu'on fait de mieux, nous.
Certes, alors, mais c'est aussi une facilité d'approche. Après, au-delà, il faut apprendre l'altérité dont vous parliez tout à l'heure et la difficulté.
C'est ça. Je crois que le scientifique, il est censé passer au-dessus de ça.
Alors, tout le monde... Oui. Sur le cerveau, vous n'y croyez pas
non,
du tout.
Non, alors attendez. Je connais Stefano Mancuso, un type très intelligent et très intéressant. Et j'aime beaucoup ce qu'il fait. Mais je trouve que son vocabulaire, il est clairement commercial, hein. Neurones, cerveau, intelligence, neurobiologie, c'est des trucs qui font vendre, ça.
Oui, en fait, ce n'est pas les seuls chercheurs à utiliser des termes parfois commerciaux pour mieux vendre, des fois au grand public aussi, hein, à des gens qui ne sont pas spécialistes, la nature de leurs travaux, ça, ce n'est pas spécifique aux plantes.
Hein. Non, c'est vrai.
Bruno Moulia ?
Oui, je pense ce que dit Francis, c'est vrai qu'il y a un certain malaise dans la communauté scientifique, alors là c'est un peu en interne, il faut se rendre compte qu'on vit un grand changement dans la communauté scientifique, en particulier au niveau de ce qu'on appelait les publications. Donc on publie, vous savez, pour faire connaître nos résultats et pour les partager, on peut aussi les évaluer. La structure de la publication a beaucoup changé, elle est devenue privée, avec des gros groupes de presse, exactement comme vous pouvez le connaître aussi dans les médias. Et du coup, certains de ces journaux ont besoin effectivement de faire un peu plus de scoop. Par exemple, vous avez souvent été constaté que des journaux comme Nature, etc., vont chercher des choses qui vont accrocher un public large. Voilà. Et du coup, ça a créé une suspicion dans la communauté scientifique vers est-ce qu'on n'est pas en train de faire de la com plutôt que de la science, quoi. Donc c'est vrai que cette nouvelle situation crée une attention toute particulière sur des métaphores qui peut-être avant n'auraient pas été vécues.
Suspectées,
voilà, on se demande toujours. Voilà. Donc c'est vrai qu'il y a une partie, moi je suis d'accord avec Francis, sur le fait qu'il y a une partie probablement de com dans cette histoire. À présent, si on veut essayer de travailler en scientifique et d'objectiver comment peut être contrôlé cet éventuel comportement, ces réponses qu'on voit, et éventuellement l'articulation avec des mémoires, des choix, etc., j'ai l'impression qu'on est obligé de revenir à des hypothèses qu'on veut tester. Et devant des phénomènes si complexes, le seul outil qu'on a, c'est un outil qu'on appelle la modélisation, c'est-à-dire combiner de manière formelle avec des équations la possibilité de pouvoir simuler ce qu'on pense être une hypothèse réaliste. Combinant, vous voyez plusieurs signaux, plusieurs réponses, etc. Et moi, je dirais, il y a une scientifique tchèque, là, dont le nom est très difficile à prononcer, mais je crois que c'est Kreshkova, qui récemment a fait un article sur lequel avec qui je suis très d'accord, c'est-à-dire que on ne pourrait parler de comportement intelligent que si dans un modèle pour représenter qu'on peut tester réellement face à la réalité un comportement donné de végétal, on a besoin d'avoir recours à une mémoire, à une capacité de choix, etc. Donc c'est ça qui permet de tester. Donc par exemple, par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure sur notre travail, le travail sur le contrôle postural, en fait, n'a pas besoin de recours ni à une mémoire, ni même à un choix. Donc on est encore en deçà. Mais l'altérité, c'est aussi que les plantes, elles ont cette capacité parfois d'avoir des réponses d'une complexité étonnante avec très peu de moyens. Il ne faut pas oublier ça, je pense.
Alors, dans Science et Vie, on parle de la mémoire du tremble, Hervé Poirier. Donc, là aussi, certaines caractéristiques. Ce qui est terrible, en fait, c'est qu'on va retrouver des traces dans différentes plantes de fonctions qui ressemblent aux nôtres. De là, les agglomérer toutes pour en faire un organisme similaire, dirigé par un cerveau, sans doute, il n'y a pas.
Oui, le toucher, l'odorat, l'ouïe, le sens de la famille, savoir reconnaître
la solidarité.
Son propre corps, le corps d'une sœur, le corps d'une étrangère, le corps de quelqu'un d'une autre espèce. Nous sommes de toute façon, il n'y a pas un mois sans que des publications sur une propriété végétale d'une espèce en particulier, car évidemment on ne parle pas des plantes en général, il s'agit du maïs, du concombre, du tremble, du tabac. C'est une vérité locale sur une espèce de tabac. La généralisation est évidemment abusive. Cependant, il ne se passe pas un mois sans que tout d'un coup quelque chose que l'on pensait dont on pensait les plantes absolument incapables se révèle démontré par preuve expérimentale à l'appui, preuve j'aurais dit comportementaliste à l'appui, mais le mot lui-même déjà est un sujet à polémique dont nous sommes régalés ici, car elle est en train de traverser le milieu de la biologie. C'est pour nous un plaisir aussi de laisser ce débat vivre et de laisser les avis divergents s'exprimer dans nos colonnes.
Voilà, c'est ça qui est intéressant, Francis Allais. C'est aussi que le débat, comme l'a très bien expliqué également Bruno Moulia, traverse la communauté des scientifiques. Ce n'est pas une question uniquement de journalistes, souvent accusés d'utiliser des termes déplacés ou une vulgarisation excessive. Là, comme vous l'avez vous-même cité, ce sont des chercheurs qui parlent de neurobiologie, ce n'est pas des journalistes.
C'est exact, oui, mais ça ne m'empêche pas de déplorer l'usage de ces termes.
Bien
sûr. Parce que je pense qu'eux aussi, ils ont besoin de crédit, et voilà, c'est commercial.
Mais le problème étant d'inventer, et l'émission tourne, il faudrait que vous nous disiez peut-être comment vous voyez l'avenir de cette discipline. Est-ce que cette altérité que vous mettez en avant n'impose pas de réinventer toute un corpus de mots, mais aussi de notions nouvelles.
Si, je suis tout à fait d'accord. Cette altérité est un objet de travail en lui-même, et ça, c'est passionnant. En ce qui me concerne, j'ai pris la décision depuis très longtemps déjà de travailler dans les régions du monde où il y a le plus de plantes, là où elles ont le plus donné de diversité. Donc, je travaille dans les forêts équatoriales. Et là, il y a des exemples incroyables. Je n'y vois toujours pas d'intelligence. C'est bien meilleur que de l'intelligence. Quelqu'un d'intelligent, il peut se tromper. Avez-vous vu une plante déjà qui se trompe? Moi, je ne crois pas.
Il y a des plantes qui meurent, tout de même.
Ah, mais mourir, ce n'est pas se tromper.
Ça dépend. Après, c'est une question d'interprétation sur la capacité d'adaptation à un domaine particulier. On voit par exemple que le réchauffement climatique va poser certains problèmes à des espèces plus ou moins capables de s'adapter.
Elles vont se déplacer, c'est pas un problème. Les grands arbres ont déjà vécu de très nombreux changements climatiques. C'est presque de la routine pour eux.
Bruno Moulia.
Sur les changements climatiques, c'est vrai que c'est une autre question. Hein. On n'est plus du tout à la même échelle. On est à une échelle des temps beaucoup plus longs. Enfin
là, celui qui se produit actuellement est plutôt
rapide. Plus rapide que les autres. Ah. Oui, tout à fait. Donc, je pense qu'on a des difficultés. Bon, je nie pas du tout le changement climatique, qui est un fait, à mon avis. Mais la question de savoir si les plantes vont se déplacer facilement ou pas est un débat permanent qui est discuté très fortement.
Mais on constate déjà des migrations.
On constate des migrations assez fortes.
Qui vont vers le nord ou vers le sud.
Oui, paradoxalement, en France, par exemple, il y a des travaux qui ont été menés à Nancy, à l'INRA, qui montrent que les plantes ont monté beaucoup en altitude. Elles ont suivi le gradient thermique. Mm-hmm. Et par contre, le changement de température. Mais par contre, elles ont plus de mal en plaine et à suivre le changement de température. Et probablement parce qu'en fait, il faut faire beaucoup plus de kilomètres pour le suivre. Parce que, vous voyez, en montagne, on change vite de température. Toute personne qui est montée en montagne le sait.
Économique.
Donc, il se peut que ça soit assez diversifié, enfin contrasté suivant les situations. Enfin, là, on s'éloigne beaucoup de notre débat sur les perceptions et l'intelligence. On est dans une autre question.
Francis Allais, vous vouliez ?
Oui, je voudrais rappeler qu'on ne peut pas généraliser sur ce point, mais on sait déjà qu'il y a des plantes qui ont plusieurs génomes dans la même plante. Alors ça, c'est une très bonne manière de résister au changement climatique. Vous avez un génome qui n'est plus adapté à l'ancien climat. Et en face du nouveau climat, la plante met en avant un autre variant de son génome.
Quelle plante, par exemple, a cette caractéristique assez extraordinaire ? Vous pensez à quelle plante ?
Les houx du Canada sont très classiques pour ça. Il y a un génome par... comment appeler ça ? Réitération, c'est un terme un peu compliqué, mais... En tout cas, une plante comme ça, elle est capable de faire face au changement climatique en mettant en avant un nouveau variant de son génome.
D'accord, donc elle possède à l'intérieur même d'elle des variantes pouvant être utilisées en fonction de l'environnement. Olivier Baudot voulait intervenir.
Non, en fait, je voulais intervenir sur le sujet de la neurobiologie végétale, mais on a un peu changé de sujet. Non, je voulais dire qu'en fait, il y a aussi la question de savoir ce que c'est qu'un individu en fait, dans la plante. Et les tenants de la neurobiologie végétale, en fait, ils ont un discours, c'est vrai, qui donne l'impression qu'ils essaient de calquer l'organisme végétal sur l'organisme animal. En particulier, non seulement ils parlent de cerveau, mais ils parlent aussi d'une partie antérieure et d'une partie postérieure de la plante, en comparant le système racinaire à la partie antérieure, où se trouvent tous les organes de relation et le cerveau, et la partie aérienne à la partie postérieure, où se trouvent uniquement les fonctions de nutrition, etc. Donc, en fait, la question de l'intelligence, on a dit tout à l'heure qu'on pouvait imaginer une intelligence sans cerveau. Mais est-ce que c'est possible de parler d'intelligence quand l'organisme lui-même n'est pas clairement défini dans ce qui fait son individualité ? Est-ce que c'est l'ancrage racinaire qui fait l'unité d'un individu ? Est-ce que c'est l'unité génétique ? Enfin, je ne sais pas si là-dessus, il y a des consensus également.
Francis Allais, sur l'identité par rapport à l'altérité. Alors, comment vous la définiriez ?
Il
n'y
a pas d'individu chez les plantes, je voudrais rappeler ça.
Il n'y a pas d'individu, c'est-à-dire que les individus...
Mais non, un individu, mais là aussi, il y a des définitions, il faut s'y tenir. Un individu, c'est quelque chose d'indivisible. Si vous le divisez, les deux moitiés vont mourir. Mais un arbre, je peux le diviser en deux, ça fait deux arbres. Donc, ce n'est pas un individu. Et c'est pareil pour toutes les plantes, d'ailleurs.
Bruno Moulin.
Oui, on est tout à fait d'accord avec ce que vient de dire Francis sur la notion d'individu. On est obligé de passer dans un répertoire très différent quand on travaille sur les plantes, ne serait-ce que parce qu'elles se bouturent très facilement. Quelques animaux inférieurs font aussi des choses un peu comme ça.
On a développé des greffes.
Voilà, et nous, on avait développé des greffes, mais bon, c'est dans un contexte un peu plus technologisé.
C'est plus délicat.
Voilà. Et donc, je suis d'accord avec la notion d'individu. Il reste quand même vrai qu'à un moment donné, on a un certain nombre d'éléments de plantes, de tissus, si vous voulez, qui sont en connexion. Et toute la question, par exemple, de la neurobiologie végétale, elle vient, moi j'aime pas trop non plus ce terme, mais je le reprends puisque c'est celui qui est utilisé, elle vient du fait que les gens, depuis longtemps déjà, ont constaté, outre les mouvements dont nous parlions, la sensibilité, la propagation de quelque chose qui ressemble à l'influx nerveux, c'est-à-dire des potentiels d'action. Donc c'est vrai que quand on commence à avoir des potentiels d'action, on se pose la question de leur fonction. Donc nous, on a montré par exemple, des fois, ils transportaient l'information après un toucher à un autre endroit. Voilà. Mais Mais on se demande si ça ne fait pas plus que ça. Juste après, il y a eu le fait aussi que chimiquement, on retrouve à peu près tous les neurotransmetteurs dans les plantes. Vous savez aussi qu'on y a retrouvé, par exemple, l'aspirine aussi, enfin, des choses qui ont beaucoup d'action chez les animaux. Donc ces gens-là se sont posés des questions à partir de ça, en fait. Ils se sont dit, mais quelle peut être la fonction de tous ces agents? Ils ont évidemment privilégié une première hypothèse. Moi, mon problème, c'est qu'on puisse décider s'ils ont raison ou pas. C'est-à-dire, le problème de la science, c'est quand même de pouvoir trancher. Donc, moi, j'accepte l'hypothèse, mais je demande à ce qu'on puisse décider si oui ou non elle est féconde. Il faut savoir quand même que, historiquement, ce n'est pas du tout récent, hein, l'histoire de la racine cerveau. Vous en parlez, je crois, dans le numéro spécial. C'est Darwin qui est le premier, à ma connaissance, hein, dans un livre qui s'appelle « La puissance ou le pouvoir des mouvements chez les plantes ». A émis cette hypothèse simplement parce qu'il était, comme nous aujourd'hui, fasciné et un peu dépassé par la complexité des mouvements qu'il observait. C'est un des premiers à avoir regardé les mouvements et il s'est dit, ben, il doit y avoir quelque chose là. Et donc il a commencé à penser à un cerveau. Vous voyez, ça s'est resté un peu dans l'ombre pendant longtemps et c'est revenu récemment.
Alors, on entend dire qu'en coupant l'extrémité des racines, on prive la plante de certaines capacités.
Oui, alors ça, c'est moi, je suis assez critique sur cette chose-là. C'est un fait. Hein. Alors, si vous prenez une racine en accéléré, que vous regardez sa croissance, vous la voyez osciller, regarder un petit peu d'un côté. Enfin, regarde, là, je prends des termes anthropomorphiques, hein, mais tourner un peu à gauche, tourner un peu à droite, avancer, toucher quelque chose, repartir, etc. Donc, et il est vrai que les racines sont des organes pleins de tact. Elles passent leur temps à percevoir mécaniquement leur environnement et chimiquement. Mais par contre, des fois, à mon avis, il y a peut-être une petite confusion.
Donc là, en fait, oui, pour finir cette analogie-là, c'est quand on coupe l'extrémité, au lieu d'avoir ce comportement,
elles vont tout droit. Ouais. Mais il y a une particularité de ce qu'on appelle la zone de transition, qui est l'endroit où les gens de la neurobiologie pensent que peut-être il y a la zone qui serait une sorte de cerveau, un petit cerveau. C'est aussi la seule zone qui sait se courber. C'est-à-dire, c'est la zone motrice qui permet de faire des courbures à gauche et à droite. Et donc, vous savez, il y a l'exemple connu de la question de la puce et de l'endroit où elle perçoit le son. Alors, si vous prenez une puce et vous tapez sur la table, elle saute. Et donc, vous dites, ouh, elle perçoit le son. Et vous enlevez les quatre pattes, elle ne saute plus. Et vous dites, donc, le son est perçu par les pattes. Et donc, c'est faux, évidemment. Et donc, bon, c'est un petit exemple simple. Mais là, l'idée, c'est peut-être qu'on est en train d'enlever l'endroit moteur, c'est-à-dire l'endroit qui permet effectivement dans les mouvements, et non pas le cerveau.
Donc, une mauvaise interprétation.
Peut-être.
Francis Allais, un mot pour conclure cette émission, donc quels seraient vos projets? Alors, vous avez du pain sur la planche, s'il vous faut inventer tout ce langage et tous ces concepts.
Je refuse le terme d'intelligence, c'est le centre de notre débat, n'est-ce pas?
Absolument.
Je le refuse pour les plantes. Mais d'abord, ça ne veut absolument pas dire que je méprise les plantes. Je crois que je n'arrête pas de constater des propriétés absolument admirables, qui dépasse de très loin les exemples qui sont dans Science et Vie. Bon, mais cependant,
je crois que c'est on l'a compris, mais malheureusement, là, l'émission s'achève. Alors, juste un mot, s'il vous plaît.
Ce qui m'intéresse, c'est l'altérité. Voilà le mot que je voulais mettre.
Mais je crois qu'il a été très bien mis en avant. Le débat de Science Publique d'aujourd'hui s'achève. Merci à Olivier Baudeau, Francis Allais, Bruno Moulia et Hervé Poirier d'y avoir participé. Sur le site de Science Publique, vous trouverez des références d'ouvrages sur les plantes, en particulier ceux de Francis Allais. Et vous pouvez trouver dans les kiosques le numéro de mars du magazine Science et Vie, dont le principal dossier est consacré à cette intelligence des plantes dont nous avons débattu aujourd'hui. Vous pouvez réécouter sur notre site cette émission pendant 1000 jours et la podcaster pendant un mois. La semaine prochaine, 15 mars, nous retrouverons le Club Science Publique qui se penchera sur une situation où les plantes, justement, sont fortement mises à contribution, souvent, puisqu'il s'agit de Fukushima, 2 ans après la catastrophe nucléaire, et donc sur ses conséquences dans le monde et en France. Science Publique, Dany Journeau, Ariane Herblay, Marie Dalquier, Michel Alberganti, et merci à Dany Brunel à France Bleu Montpellier pour le duplex. La science continue sur France Culture avec lundi prochain à 14h l'émission Continent Science de Stéphane Delisgeorges. Pour l'instant, il est bientôt 15h. Nous vous laissons en compagnie d'Adel Rahab-Deb pour Culture d'Islam. Merci à tous, excellent après-midi sur France Culture et à la semaine prochaine.